Je pense que je suis encore plus congestionné qu'au premier service. À l'intérieur, vous avez une feuille de notes. Je vous encourage à vous en servir pour prendre des notes. J'espère que ça vous aide à suivre. On continue notre série ce matin. La vie comblée, si Dieu prenait soin de vos besoins les plus profonds. On est rendu dans la quatrième. Je veux vous encourager, comme je l'ai mentionné les autres fois, je veux vous encourager à vous en servir, non seulement pour vous-même, mais pour des personnes que vous connaissez. Vous connaissez des gens, et puis il y a un des sujets, à un moment donné, dans la série, vous dites, « Mes amis, il me semble que ça répondrait tellement à un de ces questionnements ou à un de ces besoins. » Et commencez avec ça, puis parlez tout de suite de la série. Donnez-lui comme un échantillon en lui disant, « Si tu aimes ça, je vais t'apporter les autres. » Et des fois, Dieu va se servir de ça pour commencer une œuvre qui va progresser, qui va aller plus loin. Mais ayez toujours un plan, comme c'est quoi la prochaine étape, là? Parce que moi, je veux qu'elle entre dans cette vie abondante qu'il y a en Jésus-Christ. Et j'espère que ça va être un outil qui va aller dans ce sens-là. Ce matin, on est dans la quatrième, on parle de la joie parfaite. Mais on a tous des mauvaises journées, n'est-ce pas? On a tous des journées qui sont plus difficiles, écoutez ça. Un dimanche matin, une mère frappe à la porte de chambre de son fils pour lui dire que c'est le temps de se lever puis d'aller à l'église. Alors, elle frappe à la porte. Et puis le fils répond, « Je ne vais pas à l'église ce matin. » La mère lui dit, « Tu dois te lever et aller à l'église. » Le fils répond, « Non, je ne suis pas obligé. » La mère, « Oui, tu es obligé. » Là, le fils dit, « Non, je ne suis pas obligé. Ils ne m'aiment pas, puis moi, je ne les aime pas non plus. Donne-moi au moins deux bonnes raisons pourquoi je devrais y aller. » Alors, la mère répond, « Écoute, premièrement, tu as 55 ans, puis deuxièmement, c'est toi le pasteur. » Même les pasteurs peuvent avoir des mauvaises journées, vous savez. Ça nous arrive, hein, Normand? C'est des journées qui sont plus dures que d'autres. Vous avez besoin de la joie dans votre vie, je vous le dis. C'est pas juste quelque chose qu'on dit, ben, ce serait le fun d'avoir la joie, ouais, il me semble que la vie serait plus facile. Non, c'est un besoin fondamental de l'être humain. Vous avez besoin d'expérimenter, de vivre cette joie-là régulièrement. La vie sans joie devient extrêmement lourde. La vie sans joie est difficile. Ça devient même parfois, pour certaines personnes, quelque chose qui est oppressant. Tellement ils languissent, ils désireraient vivre une vie un peu plus légère, un peu plus joyeuse. Et je vous dis, vous avez besoin de ça comme d'un besoin fondamental. C'est tellement vrai, cette semaine, je lisais dans un article du US News and World Report qui disait aux États-Unis, vous savez, ils font tout ça big, hein? Aux États-Unis, il y a même des entreprises qui embauchent, qui engagent des consultants pour aider à rehausser le niveau de joie dans l'entreprise. Parce qu'ils sont convaincus que ça va aider les employés à être plus productifs. Et dans un sens, ça fait bien du sens, non? Lorsqu'on manque de joie, on dirait que tout est lourd, hein? On manque d'énergie, c'est votre expérience aussi. Quand on commence une journée, on est dans la joie, il me semble qu'on est d'attaque. On est prêt à foncer, on est prêt à attaquer, on est prêt à aller de l'avant. Il me semble qu'on a plus d'énergie. Alors c'est vrai, vous avez besoin de joie dans votre vie pour avoir cette énergie, pour faire face à la vie. Ça fait déjà quelques semaines qu'on a commencé la série « La vie comblée, comment Dieu peut répondre à vos besoins les plus profonds ». Et un de ces besoins, c'est la joie. C'est un des besoins que vous avez. Vous savez, à travers la série, on associe chacun des besoins à un nom de Dieu. Parce que Dieu se fait connaître à travers des noms et il veut nous montrer tout ce qu'il y a en lui comme personne. Un de ces noms se trouve dans le psaume 43. Je vais essayer de le prononcer de mon mieux. Ça se prononce El Simchat Gil. Ça ressemble à ça. Ça veut dire « Je suis le Dieu des grandes réjouissances, des transports de joie ». En d'autres mots, « Je suis le Dieu de la joie débordante, abondante ». Vous savez, des fois, on conçoit Dieu comme le Dieu de la paix. Normand, la semaine prochaine, va nous parler de El Shalom, ou de Jéhovah Shalom, du Dieu de paix. Maintenant, on a tendance à voir Dieu comme juste comme paisible et calme à travers toutes les circonstances. C'est pas ça tout à fait, Dieu. Dieu est plus que ça. C'est cette paix remplie de joie aussi. Cette allégresse qui est là dans la personne de Dieu. Et donc, c'est beaucoup plus que simplement la paix, c'est avec une joie qui est là. Et ce qui est fascinant, lorsqu'on pense à la joie, on pense généralement, ceux qui sont familiers avec les Écritures, on pense au livre des Philippiens. La lettre que Paul a écrite aux Philippiens, c'est un tout petit livre, 4 chapitres, Mais en 4 chapitres, Paul va mentionner 16 fois la joie. Dans toutes sortes d'expressions différentes, 16 fois en 4 chapitres, Paul va mentionner la joie. Et ce qui est fascinant à travers, de remarquer concernant ça, c'est que Paul n'a pas écrit ce livre-là pendant ses vacances à Cuba. D'accord? Il n'était pas dans le sud, sur la plage en train de relaxer. Paul était probablement dans un des moments les plus difficiles de sa vie. Paul a écrit la lettre aux Philippiens alors qu'il était en prison, à Rome, dans un contexte très, très difficile, extrêmement difficile. Et Paul nous donne, c'est comme une ironie de Dieu, comme un clin d'œil du Seigneur. Paul nous donne, par cet homme qui est en prison, dans un des moments les plus difficiles de sa vie, probablement le livre le plus positif de la Bible. Comme si Dieu voulait nous dire à travers ça que la joie qui se trouve en Dieu ne dépend pas des circonstances de la vie. C'est fascinant comme le Seigneur est souverain et nous enseigne des leçons de toutes sortes de manières. Et on va les tirer de ce passage, de ce texte, les fondements de la joie de Paul. Et pour nous aider à le mémoriser, j'ai fait un acrostiche avec le mot « joie ». Alors, on va voir ensemble quatre principes, quatre fondements, quatre bases sur lesquelles Paul s'appuie pendant qu'il est en prison, pendant qu'il est dans des moments extrêmement difficiles, comme je l'ai dit, pour vivre quand même de la joie. Et ça ressort du livre, ça transpire du livre. Paul, dans ces moments-là, vivait de la joie. On va le voir ensemble. Et si ce matin, vous prenez la décision de commencer à appliquer ces principes dans votre vie, si à la fin de l'avant-midi, cette semaine, vous allez dans la prière, vous dites « Seigneur, je veux vivre selon les principes de ta parole », vous allez voir progressivement ces moods, ces états d'âme se dissiper tranquillement pour pouvoir goûter cette joie que Paul vivait même en prison. Premier principe, avec la lettre J, jette derrière toi les regrets du passé et les inquiétudes de l'avenir. Paul dit que si nous voulons avancer dans la vie et vivre une vie comblée en Dieu, c'est vers l'avenir qu'on doit se tourner. Et vous savez comme moi qu'il y a des gens autour de vous, des gens que vous connaissez peut-être vous-même, il y a des personnes qui sont constamment tournées vers le passé. Ils restent collés là dans le passé. Il y a des personnes qui restent dans le passé parce qu'ils contemplent leur gloire passée, leur bon coup. C'est comme, c'était le bon temps. Et puis on dirait qu'ils restent collés là. Excusez-moi, ils restent fixé sur des bonnes choses qu'ils ont faites, des bons coups qu'ils ont faits. S'il y a un homme qui aurait pu le faire, c'était Paul. Paul, avant de connaître Christ, était un héros national. C'était une vedette. Il rentrait dans une ville, les officiels de la ville venaient le voir, il l'invitait à manger tout de suite. Il était très connu. C'était un homme connu à cause de sa religiosité. Et Paul aurait pu rester dans le passé, collé là. Vous connaissez des gens comme ça. Quand vous leur parlez, on dirait que s'ils étaient capables, ils feraient juste reculer dans le temps puis ils arrêteraient le temps là. On dirait qu'il n'y a pas d'avenir. Tout ce qui est beau, tout ce qui est bon, c'était dans le passé. L'avenir n'a rien à offrir. Vous connaissez déjà comme ça. Maintenant, il y a d'autres personnes qui restent collées dans le passé à cause de regrets. À cause qu'ils ont des regrets de toutes sortes de choses qu'ils ont faites dans le passé. Et ils restent fixés là à cause de mauvais coups qu'ils ont faits, de péchés qu'ils ont commis, d'erreurs qu'ils ont commis. Et ils restent fixés là, ils restent les yeux fixés là, rongés par les regrets. Et ils ne sont pas capables d'avancer parce qu'ils se disent « si seulement j'avais fait autrement ». D'autres sont dans le passé aussi, pas parce qu'ils n'arrivent pas à se pardonner les erreurs qu'ils ont commises, mais parce qu'ils n'arrivent pas à pardonner des blessures qu'on leur a infligées, des offenses qu'on leur a faites. Et eux autres aussi restent dans le passé, on a parlé il y a deux semaines, hein? Eux restent dans le passé à cause des offenses qu'on leur a faites, à cause des blessures qu'on leur a infligées, et incapables de pardonner, ils restent bloqués là, alors que Dieu veut leur offrir un avenir. Mais ils restent coincés en arrière et ils n'arrivent pas à avancer. Paul nous dit, tu dois jeter ça derrière toi et aller de l'avant. Paul aurait pu rester les regards fixés sur le passé, fixés sur ses gloires. Écoutez, il est en prison. Je veux dire, il est en prison à ce moment-là. Mais il fut un temps où quand Paul arrivait dans une ville, les Juifs accouraient, les autorités de la ville disaient, hey, viens manger chez nous. C'était un héros national. Et il a donné sa vie à Christ. Il est en prison maintenant. S'il y a quelqu'un qui aurait pu rester fixé dans le passé pour se rappeler des bons moments, ça aurait été Paul. Et Paul nous dit, tu dois jeter ça derrière. Parce qu'à partir du moment où il a connu Christ, il a décidé de laisser tout ça en arrière pour se porter vers l'avenir et saisir la personne de Christ. Il dit comme ça dans Philippiens 3, au verset 7 et 8, il dit, « Toutes ces choses, en parlant de son passé, constituaient à mes yeux un gain. » Mais à cause de Christ, je les considère désormais comme une perte afin de gagner Christ. Paul était tourné vers l'avenir. Certains restent dans le passé pour contempler leur gloire, d'autres pour se morfondre de regrets. Mais vivre une vie comblée en Dieu, c'est fixer les regards vers l'avenir pour aller saisir la personne de Christ. Et on a tous des regrets. On a tous des squelettes dans le fond de notre placard. On a tous des choses qu'on ne voudrait pas que les gens sachent. Est-ce que vous connaissez Conan Doyle? Quelques personnes qui ont lu les aventures de Sherlock Holmes? C'est lui qui a écrit ça. Moi, je lisais ça quand j'étais jeune. J'en ai lu plusieurs. Sir Arthur Conan Doyle. C'est lui qui a écrit les aventures. Puis c'est un homme assez excentrique. Fait que... Un jour, il a décidé qu'il voulait faire, il voulait jouer un tour. Et il a écrit une petite lettre très courte qu'il a envoyée, une lettre anonyme qu'il a envoyée à 8 des hommes les plus puissants d'Angleterre, les hommes les plus célèbres. La lettre était très, très simple, très courte. Elle disait une phrase. Tout a été découvert, sauvez-vous. Il n'y avait rien d'autre dans la lettre. Il voulait juste voir comment les gens allaient réagir à ça. En moins de 24 heures, les 8 hommes avaient fui le pays. On a tous des regrets, des squelettes dans le fond de nos placards. Je suis certain que ce matin, on pourrait trouver des choses sur vos vies, chacun d'entre vous. Je suis sûr que chacun d'entre vous ce matin, on pourrait trouver des choses sur vos vies. Puis si on les dévoilait maintenant, vous voudriez vous sauver de la salle en courant, je vous le garantis. On a tous des regrets. Il y a tous des choses qu'on voudrait effacer de la bande. Vous savez ce que je veux dire? Mais l'affaire avec les regrets, c'est que ça règle absolument aucun problème. Et lorsqu'on reste là, lorsqu'on reste à se laisser ronger de l'intérieur par les regrets, éventuellement, on devient misérable parce qu'on n'avance pas. Et il y a des personnes que vous connaissez, vous les rencontrez, ils sont comme ça. On dirait qu'ils reviennent toujours sur ces vieilles histoires-là, puis tu leur dis, regarde, le Seigneur t'a pardonné, arrête ça, avance. Mais non, ils sont collés là et ils sont misérables, puis ça avance à rien, ça mène à rien. Ils ne pourront rien changer avec ça. Rester dans le passé, dans les regrets du passé, c'est une perte de temps, ça ne donne absolument rien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bien, premièrement, on doit régler les blessures du passé pour certains d'entre nous. Il y a des personnes ici, je l'ai dit il y a deux semaines, passer à l'avenir, ça veut dire régler des choses, peut-être que c'est ça, et il y a besoin que le pardon soit apporté. Allez prendre la cassette, allez prendre le CD, allez sur le site Internet, prenez le temps d'étudier les Écritures, peut-être que c'est là que vous êtes rendu, vous n'êtes pas rendu au pas de ce matin. Mais une fois que ça s'est fait, voici ce que la Bible nous dit. Jette ça en arrière. Oublie ça. Quand tu as pardonné, quand tu as demandé pardon, quand tu as essayé de réparer ce que tu pouvais réparer, après ça, tu oublies ça. C'est en arrière, on oublie ça. Une fois que tu as oublié ça, tu peux avancer avec la vie. Maintenant, comment est-ce qu'on peut oublier ça? On peut l'oublier parce que Dieu l'oublie. Voyez-vous, vous pouvez l'oublier parce que Dieu l'oublie. Et c'est ça que la parole de Dieu nous dit. Lorsqu'on vient à Dieu, puis qu'on dit, Seigneur, avec un cœur sincère, Seigneur, je te demande pardon. J'ai fait des choses, j'aimerais tellement ça les effacer, Seigneur, mais je ne suis pas capable. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai péché, j'ai fait des niaiseries, ça ne se peut pas. La parole de Dieu nous dit que lorsqu'on vient à Jésus-Christ, puis qu'on dit, Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi. Ce que le Seigneur fait, c'est qu'il prend nos fautes, il prend nos péchés, il prend ces choses du passé et il les enfouit au fond de l'océan. Aux profondeurs les plus grandes de l'océan. Puis au-dessus, il met une enseigne qui dit « Pêche interdite! » Interdit de retourner là. C'est ça que le Seigneur fait. En des termes bibliques, la parole de Dieu dit dans Jérémie 31-34 « Je pardonnerai leurs fautes. Je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. » C'est effacé de son livre de compte. C'est rayé, il ne s'en souvient pas. Et lorsque le Seigneur regarde Yannick Etier, le Seigneur voit Yannick caché derrière le sang de Christ. Purifié. Et je pourrais être tenté, moi, de regarder à un autre Yannick, à mon passé. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur voit, et donc je peux le faire. C'est extraordinaire que le Dieu de la Bible oublie nos péchés, oublie nos fautes. Une fois qu'on lui demande pardon, c'est réglé. Et si Dieu peut oublier vos fautes, vos péchés, vos erreurs, vous devez le faire. Vous devez le faire. Dieu le fait, vous devez le faire. Vous ne pouvez pas rester là en arrière. Écoutez ce que Dieu dit dans Ésaïe 43, les versets 18 et 19. Une parole d'espérance. Il dit, « Ne vous rappelez plus les événements du passé et ne considérez plus les choses d'autrefois. Je vais réaliser une chose nouvelle qui est prête à éclore. » Voyez-vous, Dieu a des projets pour votre vie. Dieu veut vous amener de l'avant. Et certains d'entre nous restons collés dans le passé avec des regrets. Mais Dieu oublie, et vous devez le faire. Vous devez absolument pour pouvoir aller de l'avant. Maintenant qu'on a adressé, je dirais, un bout de la vie, le passé, tournons-nous vers l'avenir. Tournons-nous vers en avant. Si vous devez apprendre à vivre dans la joie du moment présent, vous devez aussi jeter derrière vous les inquiétudes de l'avenir. L'inquiétude dans nos vies, moi je vous le dis, je pense que c'est le plus grand rabat-joie. Il y a des personnes qui sont rongées par l'inquiétude, ils ont peur et vous ne pouvez pas vivre la joie en même temps que vous vivez l'inquiétude, c'est impossible. Les deux ne peuvent pas habiter ensemble dans le cœur de l'homme. Quand l'inquiétude vient là, elle vient saper toute la joie, elle vient ronger notre joie. Les deux ne peuvent pas habiter ensemble. L'inquiétude ne fait qu'empirer les choses. Plus vous vous inquiétez, plus les problèmes prennent des proportions extrêmes, gigantesques. Et les inquiétudes sont aussi inutiles que les regrets. Ça ne mène à rien. Vous ne pouvez pas changer le passé, vous n'avez pas le contrôle sur l'avenir. Et l'antidote de Paul se trouve dans Philippiens 3:13. Écoutez ce que Paul dit. Paul dit, je fais une chose. Oubliant ce qui est derrière moi et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course. Je m'arrête ici. Oubliant ce qui est derrière moi, vous pouvez l'encercler dans vos notes. Oubliant ce qui est derrière moi, première étape. Deuxième étape, étendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je me tourne vers l'avenir. Et vous devez le faire en appliquant un autre principe de Paul, c'est-à-dire renoncer aux inquiétudes. Dans Philippiens 4, les versets 6 et 7. Écoutez comment la philosophie de Paul, comment est-ce qu'il voyait ça? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dans le fond, Paul est en train de dire, vous avez le choix entre deux choses. Vous avez deux alternatives. Vous pouvez vous inquiéter ou vous pouvez prier. Vous avez le choix. Vous pouvez vous inquiéter ou vous pouvez prier. Et si vous vous inquiétez, c'est probablement parce que vous n'insistez pas assez, vous n'allez pas suffisamment dans la prière. Des fois, c'est avec supplication. Hein? C'est ça qu'il dit dans le passage. Des fois, c'est avec supplication. Parce que c'est gros. Mais pour aller déposer ça aux pieds de Dieu, les abandonner entre les mains de ce Père bon qui a un plan pour votre vie, sachant que de toute façon, vous ne réglerez rien par l'inquiétude. Alors, vous avez le choix, vous inquiéter ou prier. Et si vous allez dans la prière, vous arrêtez de vous inquiéter parce que vous êtes allé vous adresser à la bonne personne. La seule personne qui peut faire une vraie différence avec l'avenir dans votre vie. C'est la seule personne. Et c'est la seule personne qui veut autant votre bien. Alors vous arrêtez de vous inquiéter, vous laissez sentir ses mains. Puis vous allez de l'avant et vous commencez à entrer dans la joie. Plutôt que de vous inquiéter, priez. Premier fondement de Paul, il est en prison, ça va mal, sa vie est difficile. Première chose, jeter en arrière les regrets du passé, jeter en arrière les inquiétudes de l'avenir pour aller de l'avant. Deuxième, avec « Oh, offre ta vie à Jésus-Christ ». Offre ta vie à Jésus-Christ. Je lisais cette semaine une étude réalisée par un monsieur Michael Zigarelli. Auprès de 5000 personnes, l'étude s'intitulait « Restoring joy to your life ». Ramener la joie dans votre vie. Et il y a sorti un certain nombre de facteurs qui semblaient apporter de la joie aux gens qui se disaient les plus heureuses, les plus joyeuses. Imaginez quel a été le deuxième élément le plus important après le pardon. C'est déjà intéressant de remarquer que c'était le pardon le premier. Le deuxième, c'est avoir un but dans la vie. Avoir des objectifs de vie, avoir des buts qui sont plus grands que nous, qui nous dépassent. Et ça fait du sens. Parce que lorsqu'on n'a pas d'objectif dans la vie, qu'est-ce qu'on fait? On a tendance à s'installer un petit peu sur le cruise control, hein, sur le pilote automatique. Et l'état d'âme qu'on a, c'est ça va, ça va. C'est comme pas de rêve. Tu sais pas où tu t'en vas. Tu fais juste comme espérer que la journée sera pas si mal, mais il n'y a rien qui te porte. Alors que lorsque tu as un sens à ta vie, lorsque tu as donné un sens à ta vie, tu es porté par ça et ça t'apporte de la joie. Tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends est orienté par ça et ça devient le sens de ta vie. Et c'est ça qui va venir te diriger. C'est ça qui va venir te conduire. Au moment où Paul écrit sa lettre, il a littéralement tout perdu. Il est déjà très avancé en âge. Il est en prison. Il a des problèmes de santé. Il est seul dans un donjon à Rome. On pense probablement qu'il était enchaîné 24 heures sur 24 à un garde. Alors, ils lui ont tout pris. Il ne reste plus rien. Il n'y a plus ses amis. La joie de Paul, c'est d'aller prêcher l'Évangile de ville en ville. Il ne peut plus le faire. Il est enchaîné. Il n'a plus d'intimité. Il n'a plus de vie privée. Mais voyez-vous, Malgré tout ça, ces gens-là n'ont pas réussi à enlever l'essentiel à Paul. Ils n'ont pas réussi à lui enlever le sens de sa vie, le sens qu'il avait décidé de donner à sa vie. Et c'est ça que Paul dit dans Philippiens 1:21. Paul dit, « Pour moi, Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. » Et voyez-vous, Paul avait décidé que sa vie allait être consacrée à saisir la personne de Jésus-Christ, le connaître intimement, et ça, personne ne pouvait lui arracher. Il avait beau être dans une prison, être lié, être enchaîné, avoir perdu tout ce qui semble donner de la joie à tellement de gens, il ne lui avait pas enlevé l'essentiel. Encore à cet endroit-là, il est en train de chercher Christ. Et sa course était portée vers lui, c'était le sens de sa vie. Christ était le sens de sa vie. Paul vivait pour Jésus-Christ. Et si vous voulez avoir une vie qui va être remplie de joie, si vous voulez sortir des dents, puis goûter la joie dans votre vie, vous devez enligner votre vie sur le but que Dieu veut donner à votre vie. Vous devez chaque jour de votre vie commencer la journée avec cette déclaration toute simple. Seigneur, je me donne à toi et je veux que tu fasses ce que tu veux pour ma vie, pour ta gloire, ce que tu veux de ma vie pour ta gloire. Quand le but de votre vie, chaque jour, chaque matin, est de glorifier Dieu, tout d'un coup, les événements prennent un autre sens. Les chrétiens de longue date, vous le savez, hein? Les journées que vous avez commencées ou que vous commencez, puis vous dites, Seigneur, aujourd'hui, c'est toi. N'importe quoi, Seigneur, viens te servir de moi aujourd'hui. Hein, la journée prend un autre sens, vous vous rappelez de ces journées-là? C'est comme si on met une autre paire de lunettes, puis on est attentif, on cherche à travers la journée ce que Dieu est en train de faire, comment Dieu veut se glorifier dans notre vie, les opportunités que Dieu va nous donner d'aimer des gens, de se donner pour des personnes. On est attentif à ces choses-là. Et les journées, au contraire, qu'on commence plus centré sur soi-même, il me semble que tout vire mal, tout tourne tout croche. Et parce qu'on est centré sur nous-mêmes, les choses ne vont pas comme on veut. On n'est pas orienté et le sens de notre journée, ce n'est pas la personne de Christ. Mais lorsqu'on est comme ça, la joie vient avec. Paul dit dans Romains 6:13, il dit, « Donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Ce matin, je vous mets au défi de faire probablement la prière la plus dangereuse que vous pouvez faire. Une prière toute simple. Seigneur, sers-toi de moi aujourd'hui. Simplement. Puis après ça, soyez attentifs. Faites juste regarder le Seigneur agir. Je vous mets au défi de le faire. Je vous le dis, ça va changer toutes vos journées. J'ai fait cette prière-là il y a 17 ans, j'ai 34 ans. Ça veut dire que j'avais à peine 17 ans. Puis je m'en rappelle comme si c'était hier. J'étais dans le salon chez mon père. Ça s'est passé probablement en quelques instants dans ma tête. C'est comme si le temps s'est arrêté. Et puis Dieu m'avait confronté. Dieu m'avait amené là. J'avais des larmes qui coulaient sur mes joues. Puis simplement, j'ai dit, « OK, Seigneur, c'est correct. C'est correct, Seigneur. Prends ma vie. » Et vous savez ce qu'il y avait derrière, hein? C'était, « Seigneur, j'ai essayé. » Moi, j'ai essayé de faire quelque chose avec, puis à chaque fois, je m'offre, Seigneur, ça se peut pas. Et c'est ça qu'il y avait derrière ma prière. Et simplement, j'ai juste dit, Seigneur, prends ma vie, fais-en ce que tu veux, viens la diriger, viens te glorifier, ça ne me dérange pas, ça va être parfait, ça va être ma joie. Et vous savez quoi, ça fait 17 ans, je ne l'ai jamais regretté. Pas une seconde en 17 ans, je vous l'assure, jamais. Le seul regret que j'ai, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. C'est le seul regret que j'ai dans ma vie. De ne pas avoir offert ma vie à Jésus-Christ plus tôt pour qu'il puisse se glorifier à travers ma vie. C'est le seul regret que j'ai. Je vous le dis, vous ne le regretterez pas. Et vous allez voir, Dieu va se servir de vous. Parce que lorsqu'on fait cette prière-là, je vous parle par expérience, lorsqu'on fait cette prière-là, Dieu se sert de nous. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont disponibles. Dieu ne nous demande pas la perfection, hein? Il nous demande un cœur qui est offert, une disponibilité. Et à partir de là, je vous dis, Dieu commence à se servir de vous. Il va vous user à corps. Vous n'en reviendrez pas. Et Dieu va le faire, parce que Dieu cherche seulement un cœur des gens qui sont disponibles devant lui. Mais ça prend ce moment, cette décision, où vous allez décider d'offrir votre vie à Jésus-Christ, et c'est ça qui va donner un sens à toute votre vie. Et si vous êtes chrétien de longue date, c'est une décision qui se prend chaque matin. C'est une prière qui se fait chaque matin. Ça change toute la journée. Ça change les semaines au complet, parce qu'on cherche la gloire de Dieu. Premier fondement, jeter en arrière les regrets du passé. Jeter en arrière les inquiétudes de l'avenir pour faire confiance à Dieu. Deuxième, offrir ma vie à Jésus-Christ pour donner ce sens que personne ne peut me voler à ma vie. Troisième, on l'a mentionné, y investis-toi dans les gens. Paul vivait beaucoup de joie parce qu'il n'était pas un homme égoïste. Il s'investissait dans la vie des gens que Dieu plaçait sur son chemin. Et si vous voulez vivre une joie continuelle, c'est ça le secret. Il va falloir que vous décidiez de vous donner. Si vous voulez vivre cette joie abondante, vous allez devoir prendre la décision d'arrêter de regarder à vous-même, à vos problèmes. Je sais, il y en a, il y a des difficultés, il y a des douleurs, mais ça commence par la décision de m'investir dans les autres, d'aller aider les autres. Et là, les choses prennent tout un autre sens. Parce que quand tu deviens une personne centrée sur les autres, plus tu donnes pour les autres, la joie vient dans ton cœur. Il n'y a rien de plus enthousiasmant que de voir Dieu se servir de nous pour sa gloire dans la vie des gens. Je vous le dis, il n'y a rien de plus excitant que de voir Dieu se servir de nous pour apporter des bénédictions dans la vie des gens autour de nous. C'est extraordinaire. Il n'y a rien d'aussi grand que ça. Sans ça, vous allez peut-être vivre des plaisirs éphémères, mais ce n'est pas de ça que je vous parle ce matin. Je vous parle de la joie que Dieu veut nous donner. Je vous parle de la joie qui transcende tous ces petits plaisirs que tout le monde peut se donner, chrétien ou non. Je vous parle de la joie que Dieu veut venir déposer dans le cœur. Et à partir du moment où vous décidez de donner votre vie pour les autres, vous décentrez de vous-même pour vous centrer sur les gens, cette joie-là va venir dans votre vie. Paul était en prison, et même en prison, il pense encore aux autres. Écoutez ce qu'il dit dans Philippiens 4:1. « Mes frères bien-aimés, vous que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma récompense. » Voyez-vous, la joie de Paul se trouvait dans les personnes. Il est en prison. Il est en prison, il a juste à ouvrir les yeux. Il a juste à bouger un peu, puis qu'est-ce qu'il va entendre? Il va entendre les chaînes. Puis Paul est là. Et pourtant, Paul est dans la joie. Parce que sa joie se trouve dans les personnes en qui il s'est investi toute sa vie. Alors même qu'il a perdu sa liberté, alors même qu'il est enchaîné, alors même qu'il est probablement près de la mort, qu'il est malade, qu'il est en train de vieillir. Paul est dans la joie parce qu'il est en train de repasser dans son cœur. Et puis il est en train de suivre à distance les progrès de toutes ces personnes en qui il s'est investi. Ces gens qui l'ont soutenu dans la prière. Ces gens pour qui il a lutté au pied du Seigneur dans la prière. Ces gens qui l'ont conduit au Seigneur. Et c'est ça sa joie. Et tous ceux qui sont parents ici, vous savez de quoi je parle. Parce que ce n'est pas étranger au sentiment d'un parent qui voit son enfant qui grandit. Et chaque fois que je vois Jade ou Bastien, puis à un moment donné, il m'arrive avec une réflexion, puis je dis, « Eh ben, mon gars, t'es sur la bonne voie, tu vas connaître le Seigneur, toi. » Ou je le vois juste faire un bon coup. Ou Jade arrive, puis elle dit, « Pa, j'ai réussi à l'école. » J'ai de la joie, hein? Parce que c'est toute cette énergie que j'ai investie en eux, que je les aime, je me donne à eux. Et je les vois grandir, et ça m'apporte la joie. Maintenant, Paul me dit que ça doit être beaucoup plus large que ma famille. Ça doit dépasser ma famille, ça doit être toutes les personnes que Dieu place sur mon chemin. M'investir en eux, me donner pour eux, et là va se trouver ma joie. Paul dit, vous êtes ma joie. Paul avait un sens à sa vie, c'était la gloire de Dieu dans la vie des gens autour de lui. Et c'est là qu'il trouvait sa joie. Une joie qui pouvait soutenir les épreuves les plus difficiles de la vie, une joie qui pouvait soutenir les épreuves de la prison, c'était plus fort même que d'être jeté en prison. Est-ce que vous avez donné ce sens-là à votre vie? Est-ce que vous le faites régulièrement? Ça, c'est vous qui pouvez l'analyser. Vous pouvez regarder juste la semaine dernière. Soyez concret. Restez pas sur le principe. Soyez concret. La semaine dernière, est-ce que votre vie dans l'ensemble, vous commenciez la journée en disant, « Seigneur, je veux me donner. Je veux m'investir dans les gens autour de moi. Puis je veux juste être une bénédiction pour eux. » Et je suis certain que si vous êtes capable de revoir des moments où c'était clair, c'était ça votre volonté, il y a de la joie qui était là. Il y a de la joie qui était là parce que Dieu se sert de nous. Et quelle bénédiction! Il y a un moment la semaine dernière où je vous dis, j'avais tellement de joie. Je ne savais pas comment le Seigneur allait le faire, mais j'ai vu Dieu se servir de moi. Puis je dis, ah Seigneur, ça ne se peut pas que tu te serves de moi comme ça. Et j'avais de la joie dans mon cœur, simplement parce que j'avais fait ça. Paul avait pris cette décision-là. Paul avait pris la décision de se donner. Et sans ça, je vous le dis, vous allez vivre des petits plaisirs momentanés à différents moments. Que même celui qui ne connaît pas le Seigneur peut vivre. On appelle ça des plaisirs. Mais ça vient, ça passe, ça s'arrête là. Ce n'est pas cette joie ferme qui traverse toute la vie avec nous. C'est le troisième fondement. Le troisième fondement, investis-toi dans les gens. Quatrième, une fois que tu as décidé de jeter derrière toi les regrets du passé, les inquiétudes de l'avenir, une fois que tu as décidé de donner comme sens à ta vie, de t'offrir à Jésus-Christ, une fois que tu as décidé de t'investir dans les gens, il te reste à garder ce qui se passe à l'intérieur de ton esprit. Emploie tes pensées à ce qui est bon. garde tes pensées, veille sur ton cœur afin de la nourrir, de le nourrir de ce qui est bon. Vous savez, la vie est remplie de up and down. On traverse des vallées, on traverse des montagnes. Il y a des bonnes journées, il y en a des mauvaises. Mais une fois que vous avez pris la décision de faire ces choses-là, vous devez décider de lever les yeux et de regarder ce que Dieu est en train de faire autour de vous. Vous devez décider de focusser sur ce que Dieu est en train de faire, ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a de grand, que Dieu est en train de réaliser. Plutôt que de vous arrêter sur tous les mauvais coups, toutes les difficultés de la vie, tout ce qui pourrait être décourageant et ce qu'il y a de mauvais dans le monde, parce qu'il y en a plein. Il y en a énormément. Paul était en prison. Paul était en prison et il tenait fermement ce fondement de la joie. Et on voit sa pensée dans Philippiens 4:8. Écoutez ça. Paul dit, « Nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. » Où est-ce que vous allez trouver ces choses-là pour nourrir votre âme? Est-ce que c'est à la radio? À la radio de ce temps-ci, on suit les déboires de nos politiciens. Il n'y a pas grand-chose d'encourageant là-dedans. Est-ce que c'est à la télé? À la télé, il faut quand même surveiller, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas édifiantes, qui ne construisent pas. Est-ce que c'est dans les discussions au travail avec des collègues? Peut-être. Il peut y avoir des choses encourageantes. Mais sérieusement, c'est où vous allez trouver ça? Sinon, dans la parole de Dieu. Pour aller nourrir chaque jour. Et je le disais il y a deux semaines, c'est tellement simple, c'est tellement vrai. Vous avez besoin à chaque jour d'aller prendre du temps dans la parole, de vous arrêter, parce que c'est là que se trouve ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est digne de louange, ce qui est digne d'approbation. Chaque journée nous apporte un lot de choses qui sont décourageantes, de tapes en arrière de la tête, de mauvais coups, chaque jour. Et notre âme a besoin d'être nourrie. Alors, vous devez prendre la décision d'offrir à votre âme une diète saine. Autrement, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller mettre la main sur n'importe quoi, tout ce qui tombe entre les mains, puis elle va se la mettre sous la dent. Puis après ça, on se surprend à être comme frustré par la vie, frustré par toutes sortes de pensées, on s'arrête sur des choses futiles. Puis là, on se rend compte que c'est lourd, puis c'est plate. Oui, mais c'est quoi que tu laisses te nourrir? Sérieusement. Dans nos conflits qu'on a dans le foyer, avec nos conjoints, avec des amis au travail, combien de nos conflits sont liés à des choses vraiment importantes? Et combien sont liés à des choses futiles qui ne compteront même plus dans 30 minutes ou dans l'éternité, qui sont sans importance? Mais on se laisse emporter par ces choses-là. On arrête, on dépose nos regards sur des choses qui sont futiles, ça occupe toutes nos pensées, puis après ça, on réalise qu'on est frustré, qu'on est accaparé pour ça. Et ça vient nous dévorer, ça vient prendre notre joie. Vous avez besoin de prendre du temps pour méditer la parole de Dieu tous les jours. Et quand on prend le temps de le faire, de nourrir notre âme, ça vient faire toute la différence. Autrement, vos pensées vont aller chercher n'importe quoi, puis ils vont venir les appliquer. Ils vont venir les chercher et venir les mettre dans votre cœur. Alors, ce que vous devez faire, et c'est ça que Paul faisait, pensez-y, il est en prison. Hein? Paul est en prison, comme je l'ai dit tantôt, il avait juste à ouvrir les yeux un instant. Paul avait juste à ouvrir les yeux pour réaliser qu'il était enchaîné, qu'il y avait quatre murs autour de lui, qu'il ne pouvait pas sortir pour aller prêcher la parole. Mais je l'ai dit tantôt, Paul avait pris une décision dans sa vie. Sa vie, c'était Christ. Et donc, le sens de sa vie, c'était de saisir la personne de Christ. Alors, c'est simple, Paul il est en prison et tout ce qu'il dit, il dit « Non, j'ai pas le temps pour ça ». À la tentation de remplir son esprit de toutes sortes de choses destructrices, négatif, qu'il ne ferait pas avancer. Paul dit, non, je n'ai pas le temps pour ça. Je suis dans une course pour saisir la personne de Christ. Je ne peux pas laisser ces choses-là venir m'envahir, l'amertume, venir ronger ma joie, enlever ma joie, me réveiller avec toutes sortes de pensées sombres. Je veux saisir Christ. Et donc, Paul remplissait ses pensées de la parole de Dieu en méditant les Écritures, en méditant ce que Dieu est en train de faire, en se réjouissant de ce que Dieu est en train de faire dans la vie des gens autour de lui, les gens en qui il s'est investi pendant toute sa vie. Maintenant, je sais qu'il y a des personnes ici ce matin qui se disent en m'écoutant, Yannick, c'est facile pour toi. Tu nous l'as déjà dit, toi, t'es le gars qui se lève le matin, puis toutes tes journées sont belles. En général, la vie est belle. Pour toi, il fait toujours beau. C'est vrai. Alors, certains d'entre vous, vous dites, la joie, puis c'est comme ça que vous pensez, hein? La joie dont Yannick me parle ce matin, que la parole de Dieu parle, c'est fait pour certains types de personnalités. Moi, j'ai pas une personnalité pour la joie. Je ne suis pas faite comme ça. Ça semble pas naturel du tout. Et ce n'est pas pour moi. Vous avez tort. Je vous le dis, vous avez tort. Et ce matin, je termine la prédication avec un témoignage. Un long témoignage, mais tellement édifiant. Parce que c'est l'histoire d'une dame, c'est elle qui va se raconter. Une dame qui n'avait pas un tempérament comme le mien, pour qui les matins en général ne sont pas ensoleillés. Et de son cheminement, c'est une histoire vraie, écoutez ça et trouvez ça tellement édifiant. Je vous la lis. Il y a des gens dans ce monde qui semblent facilement joyeux, sans effort et tout le temps. Et je déteste ça. Parce que je n'ai jamais été l'une de ces personnes. Je suis par nature très sérieuse, intense, négative. L'une de ces personnes au verre à moitié vide. D'aussi loin que je me rappelle, j'ai eu l'impression de porter le monde sur mes épaules, même comme petite fille, qu'il y a tant de choses attristantes dans ce monde, tant de choses pour nous blesser. Je suis devenue chrétienne quand j'avais 8 ans et j'ai pensé automatiquement qu'en devenant chrétienne, je ressentirais la sorte de joie dont la Bible parle, que Jésus semblait avoir et qu'avait l'apôtre Paul. Je voulais cette joie, mais j'arrivais pas à la trouver. Je ressentais la joie de façon intermittente, quand je revenais d'un camp ou d'une retraite ou après un réveil à notre église, ou lorsque quelque chose de grand arrivait dans ma vie. J'avais ces moments de joie passagers, mais cet état constant que j'étais censé avoir n'était pas là. En fait, la dépression était ma fidèle compagne. Elle n'était jamais loin de la surface. Au cours de mon adolescence, j'ai vraiment lutté avec la dépression. Et ça ne prenait pas grand-chose pour me jeter dans cet état. Je n'oublierai jamais le jour où j'ai pris le magazine 17 et dans lequel il y avait une publicité du parfum Yardley. On y voyait cette fille qui marchait sur une plage. Cette fille semblait tellement heureuse. Elle ne faisait que marcher sur la plage. J'ai été dépressive pendant 3 jours. Je ne parlais pas. Il y avait cet esprit de lourdeur constant sur ma vie. Quand mon mari et moi nous sommes mariés, nous avons commencé en blaguant à appeler ces périodes de ma vie mes périodes d'angoisse existentielle. Parce que dans ces moments très, très tristes, je n'étais pas certaine de l'existence de Dieu. Je n'étais pas certaine que s'il existait, il était quelqu'un que je voulais connaître parce que je n'étais pas certaine de son amour. Il me semblait que la vie était trop pénible. Tous mes efforts pour être une personne, une bonne personne, semblaient vains. La vie n'était qu'une immense plaisanterie cosmique. Je me levais le matin, je prenais soin de ma famille, j'allais au travail, je revenais à la maison, je lavais les toilettes, je préparais le souper, j'allais au lit et je recommençais encore la même chose encore et encore. J'avais l'impression que la vie n'avait aucun sens. Le seul moyen que j'ai trouvé pour y faire face, c'est en commençant à ignorer mes états d'âme. Elle venait avec régularité, 3, 4, 5 jours chaque mois, et elle repartait. Alors la vie retournait à la normale. J'ai fini par réussir à les ignorer, sachant que ça passerait. Mais en vieillissant, cette méthode pour faire face à ces états d'âme ne me satisfaisait plus vraiment. Je m'étais habitué au fait que la joie ne ferait pas partie de ma vie de façon régulière. Mais soudain, j'ai désiré cette joie. Je voulais ce que les Écritures semblaient promettre à tous les chrétiens. À cette même époque, on avait diagnostiqué 9 mois auparavant chez le père de mon mari un cancer en phase terminale, moins de 2 ans après la mort de sa mère. J'ai soudain réalisé que ma vieille façon d'affronter la pression et le stress allait être grandement mise à l'épreuve. Elle ne serait sûrement pas adéquate pour affronter les choses à venir. Alors j'ai commencé à étudier les Écritures. Je voulais savoir désespérément ce que signifiait être joyeux. J'ai commencé une étude sérieuse sur la joie. J'ai découvert que je devais changer des choses si je voulais expérimenter la joie. Ma manière de voir Dieu devait passer par des changements. Je devais changer l'idée que la joie était hors de ma portée et aussi mon choix continuel de la dépression au lieu de la joie. Comme une enfant qui a grandi dans une famille chrétienne, qui est allée à l'église et qui est devenue chrétienne à un jeune âge, j'ai développé une image de Dieu où je croyais que Dieu le Père et Jésus étaient calmes et sérieux. Je ne pouvais pas imaginer l'engouement de sa part. Je ne pouvais pas imaginer Jésus racontant une blague. Ça s'accordait très bien avec ma personnalité dépressive. Mais quand j'ai commencé mon étude, j'ai réalisé que j'avais une image incomplète de Dieu et une image incomplète de Jésus. En regardant dans les Écritures, il y avait plus de 500 mots en rapport avec la joie. 500 références à des mots comme joie, se réjouir, allégresse, gaieté, rire. Jésus était un homme joyeux. Et quand j'ai regardé sa vie, j'ai commencé à voir qu'il y avait de l'espoir pour moi, que sa vie me donnait la permission de rechercher moi-même une vie de joie. En me basant sur les vérités des Écritures, j'ai écrit une définition de la joie sur laquelle fondait ma vie. La joie, c'est l'assurance inébranlable que Dieu est au contrôle de tous les détails de ma vie. La confiance tranquille qu'ultimement tout ira pour le mieux, et la ferme volonté de rendre grâce à Dieu en toutes choses. La joie était soudain à ma portée. Ça signifiait que je n'avais pas à dépendre des circonstances heureuses et des bonnes choses qui surviendraient dans ma vie, ou que tout soit à sa place avant de pouvoir être heureuse. Avant, je comptais sur l'étourdissement et l'euphorie et ces sentiments que, franchement, je n'expérimentais pas très souvent. J'ai commencé à comprendre que la joie était possible pour moi si je développais une conviction en moi-même, au cœur de mon être, qui disait « Je crois que Dieu est au contrôle. Il connaît les épreuves de ma vie. Il connaît ma douleur, mes luttes. Il est le grand Dieu qui a un plan pour ma vie. » Si je développais une conviction qui disait que Dieu ne fait jamais d'erreur et qu'ultimement, quoi qu'il arrive, même si le pire m'arrive, je suis gagnant parce qu'il sait où il s'en va. Si je développais une conviction disant que je suis déterminé à louer Dieu aujourd'hui pour les bonnes choses dans ma vie, même s'il m'arrive aussi des mauvaises choses, alors je savais que je pourrais commencer à connaître la joie. Et Dieu m'a tout de suite mise à l'épreuve. Excusez-moi, une seconde. Veux-tu fermer ça, s'il te plaît, Dave? C'est pas romantique, mais que voulez-vous? Et Dieu m'a tout de suite mise à l'épreuve. Il m'a donné l'occasion de tester mes nouvelles convictions. Quand le père de mon époux a appris qu'il était atteint d'un cancer et a commencé à s'affaiblir, il a vécu chez nous pendant plusieurs mois. Toujours au lit, faible, rapidement, il ne pouvait plus se lever, il ne pouvait rien faire d'autre que rester couché au lit. Et bien des fois, je suis allée auprès de lui, assise à côté de son lit. Mon beau-père n'était pas quelqu'un qui avait des conversations profondes. Alors nous n'avons pas eu les merveilleuses conversations que j'aurais voulu avoir. Mais je m'assoyais et je lui tenais la main, et parfois des larmes coulaient sur mon visage. Je voulais tant le guérir. Qu'il se sente bien, qu'il redevienne la personne qu'il était avant. Mais je pouvais rien faire. Et il me tenait la main et il me disait, « Ça va, ça va. » Nous étions là ensemble, les larmes coulant sur mon visage et des larmes jaillissant de ses yeux. En regardant par la fenêtre, nous avons vu les nuages qui changeaient. Le soleil brillait sur le petit lac dans le canyon en bas de notre maison. Nous avons regardé ensemble les oiseaux qui volaient au-dessus du jardin. Et ce fut suffisant. J'ai choisi la joie dans ces moments de tendresse et d'amour avec lui. Au cours de la dernière semaine de sa vie sur terre, une semaine difficile, misérable pour chacun d'entre nous, pour lui et pour ceux qui l'aimaient, il y eut même là quelques moments de joie incroyables. Malgré la souffrance, l'épuisement, la frustration et la douleur, il y eut des moments où j'ai honnêtement eu l'impression de me tenir en terre sainte. J'étais assise et je regardais cet homme que j'aimais tant faire la transition de cette vie à ce que la Bible appelle la vraie vie. J'avais l'impression que Dieu me l'avait laissé voir. Il a ouvert les rideaux de l'éternité pour un moment et j'ai vu la vie se jouer devant mes yeux. Au cours de cette semaine, la vie fut réduite à son strict minimum. Les choses qui comptent vraiment. Pour moi, c'était ça. Un Dieu à qui je peux faire confiance. Une famille et des amis sur lesquels m'appuyer, et la joie produisant la vérité en moi, la vérité que la mort n'est pas la fin. Il y eut de la joie même au cours de cette semaine de chagrin. Et depuis, je lis cette définition chaque jour. La joie, c'est l'assurance inébranlable que Dieu est au contrôle de tous les détails de ma vie, et la confiance tranquille qu'ultimement tout ira pour le mieux. Et la ferme volonté de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Cette sorte de joie est à ma portée et à votre portée aussi. C'est signé Kay. Voyez-vous, si vous commencez aujourd'hui, si vous prenez la décision, comme Paul le faisait alors qu'il était en prison, de prendre ces principes de la parole de Dieu et de les appliquer dans votre vie. Tranquillement, vous prenez cette ferme décision dans votre cœur de dire, je vais remplacer mes habitudes par la parole de Dieu et je vais venir appliquer ces principes dans ma vie. Vous allez voir tranquillement se dissiper de votre vie ces états d'âme, ces moods, ces up and down, pour voir tranquillement la joie de Dieu venir remplir votre cœur. Maintenant, Paul avait fait le choix de donner un sens à sa vie. Et ce matin, si je vous demandais de répondre à une toute petite question, pour résumer tout le sens de votre vie, si je vous demandais de remplir l'espace ici, ma vie, c'est... Qu'est-ce que vous répondriez? La réponse de Paul, c'était simple. Ma vie, c'est Christ. Et ça lui permettait de trouver un sens à toute sa vie et même à la mort qui venait. Et d'avoir une espérance en Dieu. On va prier le Seigneur ensemble. Père Céleste, je veux te remercier, Seigneur, pour ce petit livre des Philippiens. Merci, Seigneur, pour cet homme, Paul. Merci, Père, pour les épreuves que tu as placées dans sa vie parce qu'il nous édifie, Seigneur. Il nous parle. Et Seigneur, je sais qu'il y a ici ce matin des gens qui ne vivent pas habituellement la joie. Certains d'entre eux, parce qu'ils gardent les yeux fixés sur le passé, rongés par les regrets, ou par des blessures ou des offenses non pardonnées. D'autres encore sont dévorés par l'inquiétude, incapables de vivre le moment présent et de t'abandonner l'avenir, te faisant confiance. Certains, au contraire, n'ont pas donné un sens véritable à leur vie en t'offrant leur vie. Oh Seigneur, certains peut-être sont tellement centrés sur eux-mêmes qu'ils se privent de ces véritables joies de s'investir dans les gens. Et d'autres encore, Seigneur, sont aux prises avec toutes sortes de futilités, de conflits intérieurs pour des choses ridicules parce qu'ils ne protègent pas leurs pensées, ils ne l'emploient pas à la remplir, à la nourrir de la parole et de choses bonnes. Seigneur, je veux te prier de faire la différence dans la vie de plusieurs ce matin, que ce soit un point tournant pour plusieurs, Seigneur. Qu'ils prennent la décision aujourd'hui. Viens le faire, c'est ton œuvre, Seigneur. Parce que c'est ton esprit qui fait ces bonnes choses en nous. Seigneur, nous voulons te glorifier. Et nous voulons dire comme Église, pour moi, vivre, c'est Christ. C'est en Jésus-Christ que nous te prions, Père. Amen. Amen.